Je sais pas. C'est une phrase qu'on n'entend pas beaucoup. Je sais pas. À l'heure des points de vue, déguisés en certitude, des opinions ou des jugements, maquillés en vérité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de savoir sans que l'on commence par ne pas savoir. Je sais que je ne sais rien. C'est quand même l'une des plus anciennes règles de philosophie. Mais il semble qu'on l'ait un petit peu mise de côté, la philosophie. À l'heure des scientifiques de Twitter, des experts autoproclamés, des spécialistes non concernés. Dans l'Apologie de Socrate, notamment, Platon cite cette maxime de son maître à penser pour qui les certitudes renforcent l'ignorance. L'histoire est assez cocasse. Quand l'oracle de Delphes décrète qu'il est l'homme le plus sage du monde, Socrate est très embêté. Alors il fait sa petite enquête et il s'aperçoit que ce qui le différencie des autres sages, c'est que lui, il n'est certain de rien. Mieux, il sait qu'il ne sait rien. Alors il en conclut que la sagesse, ça doit être ça. Et il va passer sa vie à s'adresser aux savants qui croient savoir et aux ignorants qui font semblant. Bref, à tous ceux qui disent qu'ils savent pour leur faire comprendre par eux-mêmes qu'ils ne savent rien et que c'est justement ce qui leur permettra d'accéder à la connaissance. Je ne sais pas. C'est quand même pas difficile sur un sujet complexe, sur une expérience qu'on n'a pas vécue, sur un avenir forcément incertain, de dire je ne sais pas. Je sais pas, moi.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous. Bienvenue dans Boomerang. De quoi mon invité d'aujourd'hui est-il encore certain? Avocat, intellectuel, écrivain, ancien garde des Sceaux et sénateur, il est l'une des grandes figures de notre 5e République ainsi qu'un observateur avisé de notre temps. Bonjour Robert Badinter.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci de m'avoir invité.
Comment fait-on pour composer avec l'incertitude?
Si vous parlez ici de l'épidémie qui a ravagé le monde entier, oui, nous sommes dans un grand état, moins d'incertitude que de perplexité, je crois, et d'angoisse, bien sûr. L'inconnu est par définition angoissant, surtout quand il débouche sur la mort.
Alors qu'est-ce que cette pandémie, précisément, a révélé, selon vous? Qu'est-ce qu'elle a rendu visible, soudain?
Alors, je sais qu'une, je ne sais pas dire une foultitude, mais un certain nombre de nos meilleurs écrivains et penseurs ont utilisé cette période de confinement pour coucher par écrit leurs observations, leurs notes, leurs critiques, leurs suggestions. Bref, nous aurons une philosophie du confinement.
De la pensée.
Une philosophie de la pensée sur le confinement, je suis sceptique. Mais une philosophie du confinement en tant que telle, soit pour le combattre, en atteinte insupportable à la liberté, soit pour, au contraire, en attirer la quintessence, être seul, ou avec celle qu'on aime ou les enfants chéris à la maison. Bref, cette période de solitude ou de vie familiale resserrée, très resserrée même, cette fermeture sur l'extérieur, pour les esprits habitués à la réflexion, sera sûrement une période fructueuse.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on tire déjà des leçons, Robert Badinter. Très tôt, alors qu'on ne savait même pas encore combien de temps allait durer le confinement et que la situation était plus incertaine et imprévisible que jamais, beaucoup se sont pris à imaginer le monde d'après. Cette expression, le monde d'après.
Dans la mesure où il s'agit d'une épreuve qui est à la fois universel, il faut bien le dire, le nombre de morts se compte par centaines de milliers, peut-être des millions, je ne sais pas. Ce qui me paraît, moi, l'essentiel de la signification profonde, c'est la réapparition de la mort dans la vie quotidienne. Ce qui était le cas de nos prédécesseurs, mais ce qui avait été quelque peu gommé ou effacé par la vie postmoderne, on appellerait ça comme ça, mais enfin, la vie d'avant l'épidémie. On dit rien ne sera plus après comme avant, nous verrons. Ça n'est pas impossible. Ça n'est pas peut-être seulement un épisode, mais l'ouverture sur une nouvelle période, comme à l'opéra, un nouvel acte.
Alors on y reviendra parce que c'est absolument passionnant. Mais le monde d'après, Robert Badinter, se peut-il qu'il devienne un monde plus juste?
Je ne saurais l'espérer. Le monde d'avant était porteur à la fois de grandes injustices et d'efforts pour rendre ce monde plus juste. On peut toujours espérer que le bien, la justice, triompheront du mal, c'est-à-dire l'injustice. Et on doit s'y employer, mais je ne crois pas que ce soit en fonction de l'épidémie elle-même.
C'est à l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux que je m'adresse. Une société plus juste, aujourd'hui, ça passerait par quoi ?
Et bien évidemment, par une dignité rendue à l'ensemble de l'humanité. Alors, on me dirait, ce sont des mots, tout ça. Non, ça veut dire très exactement l'accès de chacun aux ressources essentielles, la protection due à chacun, en effet, pour sa santé, c'est-à-dire aussi pour sa vie, la dignité respectée chez chacun. Je pourrais continuer l'inventaire de nos espérances et du même coup, et à contrario, de nos injustices ou de nos manques.
C'est passionnant, parce que ce besoin de justice, il se fait entendre partout, et notamment aux États-Unis. Vous le savez, depuis le meurtre d'un homme noir par 4 policiers à Minneapolis, des manifestations pacifiques en soutien à George Floyd et contre les violences policières ont éclaté partout dans le monde. Quelle lecture est-ce que vous faites de ces événements ?
Écoutez, d'abord, ce n'est pas lié au corona du tout. Cet homicide, il faut appeler les choses par leur qualification juridique, cette violence mortelle, si on préfère, survenue à Minneapolis, a déclenché ce qui n'était pas imprévisible, une réaction violente et légitime de la part de très nombreux Américains qui ont ressenti, soit parce qu'ils étaient noirs eux-mêmes, soit parce que ils ont, eux, conscience de l'exigence d'une société juste et donc qui bannit le racisme. Ça a explosé, mais ça aurait pu exploser en dehors de toute question de corona. Je le dis clairement, ça ne me paraît pas lié. C'est parce qu'il s'agit d'une violence policière s'exerçant contre leur minorité par deux personnages, l'un d'entre eux, qui a mis à mort quelqu'un parce que il était noir.
L'angoisse dont tout cela témoigne, comment est-ce qu'on compose avec ?
Là, ce n'est pas l'angoisse, c'est la révolte. Qu'est-ce qui mobilise cette jeunesse américaine et au-delà des États-Unis ? Qu'est-ce qui mobilise tant de conscience ? C'est que le racisme est un fléau, qu'on le bannit officiellement et qu'il ainsi s'exerce au quotidien dans la rue en dépit de tant d'efforts, de tant d'éducation, de tant de dispositions législatives condamnant comme il convient toutes les formes de racisme, aggravant les peines quand il s'agit d'infractions d'inspiration ou de caractère raciste. C'est un mouvement très général. Et pour prendre le cas de l'Union européenne, plus communément de tous les pays qui sont membres du Conseil de l'Europe, il y a à cet égard des moyens juridiques très nombreux. C'est pas la lutte contre le racisme n'est pas dépourvue de moyens. Elle peut être dépourvue de volonté politique, mais pas de moyens juridiques.
Alors précisément, ce mouvement de révolte, comment y répondre ?
Simplement en disant la vérité. S'agissant du crime commis à Minneapolis, elle a pris cet extrait filmé. Il faut d'ailleurs bien que les auteurs de ces crimes mesurent le risque constant pour eux et pour la justice, la possibilité d'être éclairée, qu'est l'utilisation aujourd'hui des portables. Tout est filmé ou tout est filmable. Donc attention, messieurs les racistes. Mais les choses étant ce qu'elles sont, je le redis encore une fois, nous avons une panoplie complète de moyens et ce n'est pas dans le droit qu'il faut chercher la réponse. Il est là, il offre les réponses. Moi, je vois naître, toujours renaître, des manifestations de racisme au quotidien. On doit les combattre. La fermeté la plus grande est requise à cet égard. J'ai l'impression de venir des truismes en nous disant ça.
Non.
Mais il est évident qu'il y a des racistes Et il y a des formes de racisme dans nos sociétés. Il est certain aussi que nous avons les moyens de le combattre.
Celle qu'il s'agit de combattre parfois, bien malheureusement, c'est la culture. Et son actualité qui, croyez-moi, ne s'est pas arrangée avec les événements de ces derniers mois. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 10 juin ?
Mon art est politique en soi, mais n'a pas de message politique.
Collage tendre, l'artiste JR a dévoilé hier un immense collage en noir et blanc dans le 10e arrondissement de Paris, réalisé avec les élèves de l'école de cinéma Courtrajmé, créé par le réalisateur Lajli. La fresque met en miroir deux yeux séparés par une fissure, hommage à Adama Traoré et George Floyd. Depuis le meurtre de ce dernier, les street artistes du monde entier, du britannique Banksy à l'américain Hijack, lui rendent hommage sur les murs de la planète. So Devastated, la chanteuse américaine Bonnie Pointer s'est éteinte lundi à l'âge de 69 ans. Elle était l'une des fondatrices du groupe The Pointer Sisters, originaire de Oakland. Bonnie Pointer et ses trois sœurs avaient commencé leur carrière en chantant dans l'église de leur père avant d'exploser dans les années 70. Le quatuor avait remporté pas moins de 3 Grammys et sorti des tubes comme Fairy Tale, Jump For My Love ou Yes We Can Can.
Oh Karen, c'est chiant, je vous le dis, c'est beaucoup mieux à Cabourg.
Cabourg un jour, Cabourg toujours. Malgré la Covid, le Festival du film romantique de Cabourg inaugure aujourd'hui sa 34e édition en s'adaptant aux contraintes sanitaires. Résultat, pas de rouge tapis, pas de paillettes et pas vraiment de Cabourg non plus. Le jury présidé par Benoît Magimel visionnera les films en compétition à Paris et délibérera en respectant strictement les mesures de distanciation physique. Le palmarès sera dévoilé le 19 juin prochain, juste avant la réouverture des salles, le 22 sur l'ensemble du territoire. On garde espoir. Enfin mercredi, c'est permis, mercredi on prescrit à défaut de salles obscures. Aujourd'hui, la question est vite répondue, on clique sur Black Panther, le documentaire puissant d'Agnès Varda de 68, visible en ligne gratuitement sur le site MK2 Curiosity. On plonge avec Rita Sauvé des Eaux, le roman graphique, mémoriel et bouleversant de Sophie Le Goubin-Copeil et Alice Charbin, publié aux éditions Delcourt. Et enfin, on lève les bras bien haut, on boit de l'eau, mais on reste à bonne distance physique avec Speak Up, la nouvelle livraison hypnotique du pape de la techno berlinoise. Paul Kalkbrenner, à la bonne heure. Robert Badinter, invité exceptionnel de Boomerang pour un point Badinter. Somme toute, jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, la France n'avait été confrontée aussi brutalement à la mort de tant d'individus à la fois. Vous en parliez. En quoi cette crise a-t-elle, selon vous, bouleversé notre rapport à la mort ?
Ah oui, je dirais qu'à ce stade, nous sommes... Les risques inhérents à cette épidémie, les risques mortels, eux n'ont pas disparu. Ils sont réduits, ils sont limités, les capacités hospitalières ont été accrues, les moyens de lutter à l'intérieur des hôpitaux, des établissements de santé contre le corona ont été enfin mis en place, mais le fléau lui-même, on ne sait pas s'il se... renouvellera ou pas, et avec quelle intensité, on ne le sait pas.
Et pour vous, la mort, qu'est-ce que ça représente ?
La fin de la vie.
C'est tout ?
Alors, si vous êtes croyant ou non, vous considérez que c'est le passage à une autre forme, qu'on dit parfois éternelle, de l'existence. C'est la fin de la vie terrestre telle que nous la connaissons. La mort, ça n'est que cela. Mais c'est en soi une donnée constante de nos existences. Et moi, j'ai été toujours frappé, au regard de ce que fut mon adolescence lointaine, par cette volonté de gommer la mort de nos sociétés, éliminer la mort de la vie, éliminer, refouler, cacher, escamoter la mort. Jadis, vous aviez, voire Courbet, l'enterrement au cimetière avec tout le village qui s'y rendait.
Mais vous n'en avez jamais peur de la mort ?
Alors, les rapports personnels de chacun avec la mort, les angoisses que la mort suscite, relèvent du domaine le plus intime de la vie secrète, ou en tout cas intime de l'individu. Et je ne vais certainement pas parler de mes rapports avec la mort ou de l'angoisse de mort. Ce que je veux constater, ce que l'on doit constater, c'est l'effort constant de refoulement de la mort aussi loin que possible de nos vies. Je me dis quand même, par rapport aux messes de jadis, quand j'écoute dans les cérémonies d'aujourd'hui aux églises des musiciens ou des enfants réciter des poèmes, chanter du Brassens, ce qui est admirable, plutôt que du Bach, je mesure que c'est encore la vie qu'on essaye un dernier moment de projeter sur la mort ou le mort. C'est pas ainsi que la mort reste pour son éternité notre lot commun. Il faut le mesurer. Nous sommes tous voués à mourir, et au regard des siècles et des siècles, sécula seculorum, eh bien nous mourrons certainement très prochainement.
Pour autant, Robert Badinter, et là c'est tout votre parcours qui en témoigne, d'où vient votre combat et votre profond respect pour la vie?
Je ne sais pas, et encore une fois, je ne tiens pas à personnaliser ni à faire une sorte d'analyse personnelle de moi-même. Je ne sais pas, mais ce que je sais, parce que c'est au plus profond, c'est que je considère que le droit à la vie, celui-là, c'est-à-dire à respecter la vie d'autrui, est le premier des droits et des obligations. Voilà, c'est ce qui explique pourquoi j'ai tant combattu la peine de mort, et je continuerai jusqu'à la fin de ma vie, par définition courte maintenant, parce que l'abolition universelle, c'est la proclamation du respect de la vie, dans la mesure où dans la vie s'intègre ici la perspective inévitable de la mort. Je n'efface pas la mort parce que je dis le droit à la vie, ce serait absurde. Je dis simplement qu'une société ne doit pas, elle, donner la mort. Ce n'est point être un stoïcien que de dire que l'on ne saurait jamais méconnaître cette donnée première que nos sociétés refoulent, mais qui est là, qui est le fait que nous mourrons tous, je n'ose dire bientôt par rapport aux jeunes gens, mais quand même dans un délai qui, par rapport à l'éternité ou le per seculorum, est très bref.
Quand une société échoue à protéger ses citoyens, de quoi est-ce qu'elle se rend coupable?
D'imprévoyance, de négligence, parfois pis encore, d'injustice dans la mesure où l'accès aux soins, j'en pense à certains États, est réservé aux tenants du pouvoir politique ou économique. De cela, la société est comptable, pour ne pas dire coupable. Il est évident que le droit aux soins, la disposition des traitements, l'accès aux hôpitaux, c'est un des fondements de nos sociétés. C'est une exigence première, et j'y vois le respect de la vie.
Dans quel état vous a mis cette possible injustice?
Écoutez, je trouve d'abord qu'on saisisse la justice pour obtenir réparation ou tout simplement pour obtenir sanction. Je dirais que c'est un comportement légitime. Mais la véritable interrogation ne passe pas par ces démarches individuelles. Je pense qu'il faudrait concilier la démarche de la justice et ce qui est une forme de présentation dans une démocratie de ce qui fut et qui n'a pas été bien fait, c'est-à-dire les commissions de l'enquête parlementaire. L'avantage de la commission de l'enquête parlementaire, c'est qu'elle est publique, contradictoire. C'est un des aspects, pour moi, les plus nécessaires de la démocratie. Mais encore une fois, il faut faire très attention à cause du respect de la démarche judiciaire, de l'autorité judiciaire, bref, de la justice tout court. Donc c'est juridiquement et judiciairement très délicat.
On va reparler de justice juste après un peu de douceur et de beauté, parce qu'on n'en aura jamais assez, comme une prière, le Let It Be des Beatles repris par Nick Cave en 2001. Vous êtes sur France Inter avec Robert Badinter. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness she is, standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Il est toujours très impressionnant, très grand, le sourcil broussailleux, le front autoritaire, et pourtant, malgré son sérieux, il y a dans son regard quelque chose d'enfantin et de malicieux, comme une prédisposition à l'ironie, à l'humour, à la force et même au jeu de mots. Pas de quoi non plus se sentir autorisé à tenter un calembour. Avec sa veste ce matin très élégante, Robert Badinter, invité exceptionnel de Boomerang, et il se trouve que vous n'êtes pas venu les mains vides. Vous m'avez fait la gentillesse de sortir de vos archives quelques documents, des documents précieux. Ce sont des lettres, je crois, Robert Badinter.
Oui, ce sont... pardon, vous l'avez demandé, j'ai fouillé dans... C'est vrai que je suis un vieux collectionneur, donc j'ai fouillé dans mes archives. Ce sont des lettres, encore une fois, de Victor Hugo, car j'aime beaucoup Hugo.
Qu'est-ce qui fait la beauté de ces documents, précisément ?
Deux choses. La première... C'est la richesse, le côté jaillissement de l'expression chez Hugo quand il écrit une lettre. Et puis, il y a aussi une constante générosité. Je laisse de côté la grandeur de l'écrivain, mais ce qui m'a toujours frappé chez Hugo, c'est qu'il a eu un parcours inverse de celui de tant d'hommes politique ou public, il n'est pas passé, lui, à mesure qu'il s'élevait dans la hiérarchie sociale, de la gauche à la droite, comme tant d'hommes politiques qu'on a vus dans l'histoire, notamment de nos républiques. Lui, c'est le contraire. C'est le poète de cour qui devient le poète du peuple. Et ça n'est pas une affectation. On voit chez lui combien la question sociale, la grande question du 19e siècle, pas réglée d'ailleurs au 20e, toujours posée, me semble-t-il, au 21e. Mais on voit à quel point la question sociale, la misère, c'est le titre original des Misérables, la misère, l'engloutissement dans l'ignorance, dans la révolte devant le traitement carcéral, bagne, tout ça honte Hugo et aussi dans sa lutte contre la guillotine. Oui. Il y a là un aspect de générosité humaine qui, loin de se tarir avec les années, n'a fait que s'enrichir.
C'est un guide à vous entendre.
C'est en tout cas un très grand combattant de l'humanité et, bien entendu, de la littérature.
Il vous a inspiré dans votre combat pour abolir la peine de mort ?
Ah, sûrement, oui, sûrement. Il a été, à mon avis, le plus grand des abolitionnistes français. Et je me souviens très bien des tailles que, au moment où allait intervenir le vote de la loi abolissant la peine de mort au Sénat, car c'est au Sénat que ça s'est joué, j'ai instinctivement ou naturellement, je me suis rapproché de la place de Hugo au Sénat. Il siégeait à l'extrême gauche, où sont aujourd'hui les membres du Parti communiste. Et il y a une plaque là, et cette place, je tenais, là, il y avait une sorte de célébration du grand, grand combat de Hugo pour l'abolition. Ben, je me suis dit en moi-même, ben, c'est fait, voilà.
Un autre auteur, et non le moindre, connu pour ses prises de position abolitionniste, c'est évidemment Albert Camus, dont on fête cette année le 60e anniversaire de la disparition. Albert Camus, dont le roman La Peste a été l'une des meilleures ventes de cette période que nous vivons encore, se réflexe, Robert Badinter, par tant de crises qui consistent à se tourner vers de grands textes. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous interrogeais sur Hugo. Notamment, je pense aux attentats du 13 novembre, où on s'est réfugié aussi dans la lecture de Paris est une fête, par exemple. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça, ce refuge dans la littérature ?
Le besoin de retourner aux sources les plus riches de notre raison et aussi de nos émotions. On a besoin de relire les grands textes face aux grandes épreuves quand les grands textes sont liés à ces épreuves.
Alors en quoi, précisément, la peste éclaire-t-elle notre présent ?
Parce que la peste est l'histoire d'une épidémie et que les habitants d'Oran, où se déroule cette tragédie, ils sont confinés dans la ville qui est en proie à l'épidémie et qui est fermée sur elle-même en ayant à vivre cette angoisse et cette épreuve.
Et je vois dans vos yeux pétillants que c'est plus que ça, que si on se tourne vers la peste, ça n'est pas seulement pour son sens premier, le récit d'une épidémie.
C'est aussi parce que Camus, mais il faut du génie littéraire, a traduit la diversité des angoisses et des comportements humains. Là est le génie du grand écrivain. C'est une cité close, et une cité close, d'une certaine manière, c'est un monde clos, n'est-ce pas ? Tous les aspects d'une cité, au sens romain du terme, sont là décrits. Mais plus que ça, je dirais, rendu vivant dans cette épreuve.
C'est par les mots d'Albert Camus que j'aimerais qu'on termine cette émission. Vous avez choisi de nous lire les dernières lignes de La Peste, ce texte de 1947, Robert Badinter.
Écoutant en effet les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rio, c'est le héros, se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Car il savait ce que cette foule en joie ignorait et qu'on peut lire dans les livres que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans des meubles et du linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Admirable texte.
Terrible.
Ah oui, terrible, terrible. Ce livre s'achève comme ça sur, il faut bien le dire, une note de désespérance. Je crois que Camus voulait opposer l'allégresse, la joie de n'avoir fini avec la menace immédiate. Il voulait l'opposer à la constance de la menace qui pouvait réapparaître.
Il y a deux paragraphes plus haut, Robert Badinter, une phrase qui me hante et qui dit « Il y a dans les hommes plus de choses à admirer qu'à mépriser ». C'est une grande phrase.
Oui, 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 oui.
Qu'est-ce que vous en faites ?
Il y a, dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. J'y vois un message d'optimisme, de foi, dans l'humanité. Je pense pour ma part que les fléaux, les épidémies, les grands conflits sont autant de circonstances, je n'ose dire d'occasion, de se remettre en cause et de revenir à l'essentiel. Encore une fois, la vie, la protection de la vie, mais la conscience de la mort.
Merci infiniment, Robert Badinter, d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci pour la lumière. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur le site de France Inter à la page de Boomerang et même la podcaster bien volontiers tout de suite les médias. Sonia De Villers, l'instant M, juste après ça.
Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume. Je vois le cours de danse à côté de la piscine et les dames qui pensent dans leur cuisine. Elles pensent aux actrices dans les halls monumentaux, les brassées d'iris et les beaux manteaux. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances. Je vois au bord de l'heure une usine qu'on vend et des hommes qui pleurent devant. Plus loin, les Anglis et Rouen derrière et le fleuve qui glisse dans la mer. Moi, et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Au bord du canal, il y a des campeurs, des gens qui leur parlent et qu'ont peur. Un monsieur de dos à la découverte de l'Eldorado dans une poubelle verte.
Un terrain en pente, Alain Souchon, sur France Inter, oh, tout de suite les médias.
Qu'est-ce qu'elle est jolie!
Elle est jolie cette chanson.
Ah ouais. Salut Augustin.
Salut, à demain.
À demain.